Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Bonjour à tous. Dieu ou la réalité scientifique ? Nous avons, à Thème et Anathème, développé une interrogation sur les rapports entre la foi et les réalités de la science. Pour continuer ce thème, je reçois aujourd'hui Louis Pernot, ingénieur, philosophe et pasteur.
Bonjour.
Bonjour Louis. Je vais commencer en prévenant nos auditeurs que nous allons rester simples et compréhensibles et qu'il n'est pas nécessaire de quitter l'écoute même si on n'a pas un bagage scientifique. Alors, on va d'abord faire connaissance. Vous avez un CV conséquent dans les domaines que je viens de citer. Alors, première question personnelle, vous avez toujours été intéressé par les domaines scientifiques et philosopho-théologiques ?
Non, à la base, moi, je suis scientifique, si je peux dire. C'est-à-dire que j'ai fait effectivement des études d'ingénieur. Et ensuite, étant ingénieur, donc, j'ai fait des études de théologie pour être pasteur, puisque j'ai eu ce qu'on appelle la vocation pastorale. Et j'ai fait en parallèle des études de philosophie qui m'ont conduit donc au doctorat de philosophie. Et donc tout ça m'a intéressé, mais je dirais c'était d'abord la science, puis la philosophie et la théologie. Ce qui fait que la question du rapport entre la foi et la science, et c'est la question de ma vie, puisque je n'allais pas ensuite faisant de la théologie prétendre que tout ce que j'avais fait avant ne servait à rien. Donc je suis resté finalement à la fois théologien, pasteur et scientifique, je crois, par l'approche que j'ai du monde réel.
Et quel domaine particulièrement en sciences, plus particulièrement ?
Alors, j'aime bien les sciences. La science que je préfère, c'est certainement les mathématiques, que j'ai beaucoup aimées, mais il y a certainement moins de rapprochement possible entre les mathématiques et la théologie, encore que. Et ensuite, la physique, évidemment, les mathématiques et la physique. Donc, ça, ce sont les sciences qui m'intéressent le plus. La biologie et tout ça, je connais assez peu et assez mal, donc je ne peux pas en dire grand-chose.
D'accord. Ben on va rester sur le domaine physique. Alors, les mathématiques, je serais bien incapable de vous poser une question en maths parce que je n'ai pas beaucoup de connaissances. En physique non plus, mais enfin, c'est quand même plus facile pour moi. Alors, on va venir au vif du sujet, donc les rapports entre Dieu et la réalité scientifique, donc la religion et la science. Alors, à la fin du 19e siècle, on sait que la science veut tout expliquer. Après Darwin, il n'y a plus besoin de la Genèse pour envisager l'apparition de l'homme. Et pour le physicien Laplace, il n'y a plus de nécessité de Dieu, tout peut s'expliquer par la science.
Alors, c'est deux questions un peu différentes. Effectivement, c'est vrai qu'à la fin du 19e siècle, beaucoup de scientifiques étaient ce qu'on appelle déterministes, c'est-à-dire qu'ils pensaient que, en fait, tout ce qui se passe dans le monde pouvait être expliqué par des équations physiques et que, par conséquent, si jamais on arrivait à connaître parfaitement la position de tous les objets dans le monde et qu'on avait toutes les équations scientifiques, on pourrait prédire l'avenir à l'infini, puisque en fait tout est prévisible par des équations. C'est-à-dire, nous, dans notre monde macroscopique, si par exemple vous roulez à 100 km/h et que vous avez un trajet de 200 km à faire, vous savez exactement que vous arriverez 2 heures après, c'est tout à fait prévisible. Et donc, les scientifiques à ce moment-là pensaient que la science était effectivement capable d'expliquer tout ce qui se passe et de prévoir même l'avenir. Alors maintenant, ça a été battu en brèche, effectivement.
Voilà, c'est au 20e siècle, donc il y a une remise en cause. Comme vous dites, tout est remis en brèche. Alors, vous pouvez expliquer comment la science se modifie, puisque vous avez parlé de déterminisme au 19e siècle et au 20e siècle. Alors, quel adjectif on pourrait employer pour qualifier la science ?
C'est-à-dire que la science d'aujourd'hui n'est plus déterministe parce qu'on sait, en particulier grâce à la mécanique quantique, qu'il y a une indétermination profonde qui est irréductible, qui n'est pas juste un manque de connaissances de notre part, mais qui sont des indéterminations microscopiques et que par conséquent, on ne peut jamais connaître à la fois la position exacte de toute chose et savoir exactement ce qu'il va devenir. Donc, il y a de l'indéterminé, il y a fondamentalement de l'imprévisible. Donc ça, aujourd'hui, on le sait. finalement, ça, c'est plus du tout un mystère. On le sait, mais c'est finalement assez récent, puisque je dirais que ça ne fait qu'une centaine d'années qu'on le sait. Quant à la science elle-même, la science ne sont que des théories efficaces. C'est-à-dire que la science n'a pas la prétention à dire la vérité absolue concernant le monde. La science est quelque chose de descriptif. Et donc, la science permet de décrire ce qu'est le monde matériel qui nous entoure et de savoir comment il se comporte et de savoir comment on peut arriver à le comprendre et le connaître. Mais une théorie peut, alors pas forcément se révéler fausse, mais une théorie peut être juste dans certains domaines et pas juste dans d'autres. Donc la théorie habituelle de la physique newtonienne est finalement assez efficace, comme ce que je vous disais, si vous roulez à 100 km/h, vous savez que vous ferez 100 km en une heure, c'est pas un grand problème. Mais donc ça, c'est efficace pour notre monde à nous, mais on sait que la partie du monde que nous expérimentons est très faible à côté de ce qu'est le monde réel, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et la grande découverte de la mécanique quantique et la relativité, c'est que dans le domaine de l'infiniment grand et dans l'autre domaine de l'infiniment petit, les choses se passent très différemment de ce que nous expérimentons, nous, à notre échelle.
Alors, on va revenir un petit peu en arrière, on va revenir au 19e siècle. Il y a eu des débats donc entre les théologiens et les scientifiques, les théologiens qui voulaient résister aux théories de Darwin et donc qui avaient une posture plutôt contre la science. Et puis, il y a eu donc le 20e siècle et la théologie a renoncé finalement à se mêler de science. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la théologie n'a pas cherché à embrayer justement sur les modifications qu'on vient de décrire au XXe siècle? La théologie n'a pas essayé de récupérer les choses, à ma connaissance en tout cas. Vous allez peut-être me dire alors, que…
Effectivement, la question de Darwin, par exemple, est assez intéressante, je n'en ai pas parlé, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le côté descriptif. C'est-à-dire que Darwin explique comment s'est passée l'évolution des espèces. Mais la théologie ne parle pas de ce genre de choses. La théologie ne parle pas non plus des lois de la mécanique quantique. La théologie, elle parle de ce qu'est la nature profonde de l'homme, de ce qu'il est invité à être, à vivre, et d'un projet créateur qui est donc ce qu'on appelle le projet de l'acte créateur de Dieu. Donc, autrement dit, la théologie ne parle pas du domaine scientifique, mais il parle d'autre chose. Quant à l'origine de l'homme, effectivement, aujourd'hui, la plupart des théologiens, enfin, pas fondamentalistes, je dirais, pensent que probablement il y a eu une évolution des espèces et que c'est peut-être pas la théorie de Darwin qui est exacte, mais que néanmoins il y a eu une évolution et que l'homme descend d'un ancêtre commun avec le singe et que par conséquent il n'y a jamais eu historiquement Adam et Ève avec le jardin, le pommier, le serpent qui parle et tout ça. Mais néanmoins, la science ne dit rien d'intéressant concernant la vie de l'homme, parce que la science ne parle pas de ce qu'est la culpabilité, par exemple, ne parle pas du bien et du mal. La science ne parle pas de ce que nous sommes appelés à être, et surtout, la science ne parle pas de la manière avec laquelle nous pouvons, nous, être acteurs du monde de demain. Ça, c'est pas un problème scientifique. Autrement dit, je crois que la science et la théologie, d'une certaine manière, traitent de questions différentes. Donc, historiquement et scientifiquement, nous sommes bien descendants, enfin, du singe ou du cousin du singe de Darwin. Mais en fait, pour ce qui est de l'expérience de ma propre vie, l'histoire d'Adam et Ève me parle beaucoup plus de ce que je suis moi en tant qu'être humain et de ce qui me distingue précisément du singe qui donc est mon cousin.
Alors, on va revenir d'une façon un peu plus élaborée là-dessus, mais je voudrais donc bien préciser que il y a donc eu un mur qui s'est bâti entre la théologie et la science. Les deux domaines n'ont plus été aussi perméables qu'avant. Et alors, sauf les fondamentalistes ou les créationnistes dont on reparlera tout à l'heure, mais les théologiens se méfient des positions par rapport à la science.
C'est-à-dire que le problème, c'est un peu de la faute de la religion, je dirais, qui s'est engouffrée depuis des millénaires sur toutes les choses que la science ne savait pas expliquer. Et donc, dès que la science ne savait pas expliquer quelque chose, la théologie s'en emparait en disant « c'est Dieu ». Alors, comme la science a expliqué de plus en plus de choses, de ce côté-là, le domaine de la théologie ou de la religion s'est trouvé de plus en plus réduit. C'est-à-dire que la religion prétendait avant expliquer comment le monde était né, en fait, maintenant, ça marche pas. Comment les espèces étaient nées, en fait, ça fonctionne pas. Et donc, autrement dit, le domaine, cette crise entre la science et la religion a été en grande partie de la faute de la science, de la religion, pardon. Oui. Mais la religion ne savait pas, enfin, elle faisait un peu comme elle pouvait. Et aujourd'hui, la tentation, donc, c'est de séparer radicalement la science et la religion et de dire la science parle du monde réel et la religion parle de l'expérience humaine. C'est une façon de faire. Et ça permet évidemment de se tirer d'affaire assez facilement. Je pense pas que ce soit la meilleure façon de faire, mais en tout cas, en première approche, ça fonctionne. Et donc, de dire, laissons aux scientifiques le soin de décrire le monde, de décrire l'origine de l'univers, de décrire l'évolution des espèces et de décrire comment fonctionnent les planètes et la science et tous les objets qui nous entourent, et que la théologie se mêle de ce qui la regarde, c'est-à-dire de l'expérience humaine, c'est-à-dire de ce qui fait que l'homme est homme et que l'homme n'est pas un simple objet, mais donc de la question de la conscience, de la morale, du bien, du mal, du projet de l'homme, de la culpabilité, de la relation entre les hommes, de ce que nous sommes invités à vivre. Et puis surtout, la théologie est invitée à parler de la question de l'absolu, de la transcendance, et dirais-je du métaphysique. Alors méta en grec, ça veut dire au-delà, et je dirais que l'a priori, du croyant par rapport à l'athée, c'est pas forcément de croire dans Dieu ou de pas croire en Dieu, mais c'est de penser que le visible n'est pas tout. Donc, je dirais que la profession de foi fondamentale du croyant, c'est celle faite par le petit prince qui dit l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc voilà, c'est ça, c'est est-ce que tout se réduit au visible et au matériel, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'immatériel et que donc qui échappe aux physiciens? Alors, c'est assez facile de répondre. Si je parle effectivement de l'amour, même de la haine d'ailleurs, mais l'amour, tous les sentiments sont des choses que la physique ne sait pas décrire. Et même si je parle des valeurs en soi, c'est-à-dire si je parle du beau, par exemple, de l'harmonie, une sorte de perfection, de la beauté, et de choses qui sont de cet ordre-là, il y a là quelque chose qui échappe aussi à la science. Et donc la théologie peut parler de ce qu'on appelle le métaphysique, c'est-à-dire de ce qui est au-delà de la physique. Alors c'est une solution simple, hein, on sépare, la physique parle du monde matériel et la théologie va parler de ce qui est de l'ordre de l'immatériel.
Oui, mais depuis quelques années, il y a des physiciens qui ne craignent plus de parler de religion ou de leur façon de concevoir le monde. Je pense par exemple au physicien Paul Kinghorn, qui est mort maintenant, qui était anglais, et puis qui est devenu pasteur anglican, qui a abandonné la physique pour devenir pasteur anglican. Et donc ce mur est devenu plus poreux, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'ouvrages écrits par des physiciens et qui parlent de leur conception du monde. Et donc comment on peut mêler ça avec le Dieu agissant à l'encontre des lois de la nature qu'on se représentait auparavant? Vous voyez, ma question, c'est pas simple.
Effectivement, je pense que beaucoup de physiciens ont tendance à ne pas se contenter de leur propre domaine et ont envie d'essayer de comprendre par-delà ce qui est, le sens de ce qui est et d'où ça vient, où ça mène. Mais le problème, c'est que beaucoup de ces physiciens parlent avec autorité parce qu'ils sont savants, mais en général ont une culture théologico-philosophique très faible. Et ce qui fait que beaucoup de ces physiciens sont retombés en fait dans des conceptions philosophiques tout à fait éculées et qui sont assez peu élaborées. Et inversement, beaucoup de théologiens parlent peut-être très bien de Dieu, j'en sais rien, pas toujours, mais espérons souvent, mais ils ont eux aussi une culture scientifique très faible. Et donc, ils risquent toujours d'aller faire une sorte de récupération de la science qui est un peu grotesque pour un scientifique. Ce qui fait que le débat entre la science et la foi est très difficile parce que les scientifiques souvent ne connaissent pas grand-chose en théologie ou en philosophie et que les théologiens ou les philosophes connaissent peu de choses en science. Alors le dialogue du coup devient très compliqué. En tout cas, il ne faut pas se laisser intimider par un certain nombre de savants scientifiques qui prétendent nous dire qu'il y a Dieu. Ils y connaissent rien. Pas toujours, ils peuvent y connaître, mais en général, ils n'y connaissent pas grand-chose.
D'accord.
Et c'est pas plus facile. La philosophie est un métier, et ça n'est pas plus facile d'être un philosophe que d'être un grand physicien de la relativité générale. C'est deux métiers différents.
D'accord. Et alors, on va venir maintenant à un domaine justement par rapport à Dieu agissant et la science. Comment on peut expliquer, par exemple, un phénomène de la prière? Vous dites que croire que par la prière, on pourrait changer la météo, bon, c'est quelque chose qui n'est pas tenable, parce que si je prie pour qu'il fasse beau et que le voisin prie pour qu'il pleuve, de toute façon, on ne va pas s'en sortir. Donc, comment... Vous dites qu'à ce moment-là, il faut y renoncer à ces théories. Comment dire aux gens de renoncer à un certain type de prière ou à certaines théories qui ne sont pas tenables?
Alors, après, chacun organise tout ça dans sa tête comme il veut. Moi, mon a priori, c'est que je crois dans la validité jusqu'à ce qu'on trouve une meilleure, mais en gros, je crois que la science a globalement raison et qu'elle décrit bien les phénomènes naturels. Et je crois que la théologie dit aussi des choses essentielles sur l'expérience humaine. Par conséquent, en tout cas, pour ce qui est de moi, j'impose personne de faire la même chose, je pense que Dieu ne peut pas contrarier les lois naturelles. C'est-à-dire que les lois naturelles sont quelque chose qui est inscrit, je dirais, dans le mode du monde qui nous entoure, et que si Dieu agit, ça ne peut pas être en contradiction avec les lois naturelles. Donc ça, pour moi, c'est absolument comme ça que ça se passe. Alors certaines personnes, ça les choque en disant « mais alors si Dieu n'est pas tout-puissant parce qu'il peut pas faire reculer le soleil sur sa course, il peut pas, je sais pas, faire naître effectivement un enfant d'une femme sans qu'il y ait l'intervention d'un homme, ou que c'est pas possible de marcher sur l'eau ou de ressusciter un mort », certains pensent que si c'est comme ça, alors Dieu n'est rien. Mais ça, ce serait une position beaucoup trop radicale, parce que je pense qu'entre Dieu qui est tout et n'importe quoi et un Dieu qui est totalement rien, il y a beaucoup d'espace pour un Dieu qui n'est pas rien. Parce qu'en effet, le problème que vous venez de poser par la question de la prière est une question intéressante et importante, parce que je vous ai dit tout à l'heure que la tentation, c'était de séparer le religieux du matériel, en disant que la religion se mêle de ce qui la regarde, c'est-à-dire du sentiment religieux, de la culpabilité, du bien et du mal, et que la science s'occupe du fonctionnement du monde. Mais en fait, le problème, c'est que les théologiens ont quand même l'idée que Dieu est une puissance qui agit dans le monde, c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer entièrement les deux domaines, à moins de faire de Dieu une sorte d'idéal moral et philosophique, de dire que Dieu, c'est juste l'absolu et la transcendance. Mais en fait, dans la religion, nous avons besoin d'un Dieu qui s'incarne en quelque sorte, c'est-à-dire d'un Dieu qui est en dialogue avec le monde matériel. Et donc la question, ça va être de savoir comment est-ce que Dieu agit dans le monde. Et ça, c'est une question, à mon avis, qu'il faut prendre à bras-le-corps, et assez peu de gens s'y intéressent. La plupart des gens y séparent, selon cette formule qu'on dit souvent, du scientifique qui dit « Quand j'entre dans mon oratoire, je quitte mon laboratoire », c'est-à-dire je sépare les deux domaines et puis que chacun chez soi et tout ira bien. Et donc, je pense qu'il faut quand même se poser la question de savoir si Dieu est Dieu, où est-il, comment agit-il dans le monde. La question de la prière est peut-être la façon, un problème le plus facile à régler, si je peux dire, c'est-à-dire là où, si c'est pareil, entre la prière qui serait une façon de demander à Dieu ce qu'il doit faire, et c'est-à-dire d'utiliser une sorte de toute-puissance qui serait à notre service pour faire des miracles, et entre ça et puis l'idée d'une prière qui serait juste rien du tout, il y a évidemment l'idée considérable qui est que de prier, la prière, sa première action, c'est sur celui qui prie, c'est-à-dire que la prière transforme celui qui prie. Et ça, comment un individu peut être transformé, la science a beaucoup de mal à le dire, hein, et même la psychiatrie moderne a du mal à expliquer tout ce qui se passe dans l'expérience humaine. Et donc, par conséquent, la prière est très efficace, en tout cas pour celui qui prie, ça j'ai absolument aucun doute là-dessus, donc ça vaut le coup de prier. Maintenant, est-ce que la prière est efficace sur d'autres êtres? Réponse oui. Donc la prière d'intercession, si je peux dire, ne me semble pas nécessairement à jeter aux orties, parce que je pense qu'il y a aussi des liens entre les êtres qui sont forts, et que, pourquoi pas, finalement, ça c'est aussi quelque chose qui échappe aujourd'hui un petit peu à notre connaissance. Comment est-ce que il y a des liens entre des êtres qui s'aiment et qui se connaissent, et qu'il y a des choses qui passent d'un être à l'autre, et une sorte de sentiment, je dirais, qui passe d'un être à l'autre sans que forcément il y ait des paroles. Donc, prier pour quelqu'un, c'est comme ce que disent aujourd'hui nos contemporains qui n'osent pas dire « je prie pour toi » et disent « je t'envoie de bonnes ondes ». Alors je dis « bah merci, c'est gentil, et les bonnes ondes, c'est sympathique, quelqu'un qui vous envoie de bonnes ondes, et je dis pas que ça sert à rien ». Alors autrefois, on disait « je prie pour toi », c'est exactement la même chose. Donc prier pour quelqu'un, pourquoi pas, prier évidemment, ça fait du bien à celui qui prie. Maintenant, est-ce que par la prière, je peux changer le cours du monde, c'est-à-dire effectivement changer la météo? Est-ce que par la prière, si tout le monde prie, on va empêcher un tsunami ou empêcher un tremblement de terre ou empêcher une guerre dans le monde? Ça, personnellement, je ne le crois pas. Mais donc, la prière est quand même très utile. Voilà.
Oui, mais donc dans ce que vous dites, finalement, la prière resterait au niveau de celui qui prie et de son entourage. Vous n'expliquez pas qu'elle peut atteindre Dieu en tant que pasteur. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Et puis on reviendra sur...
Je ne crois pas que la prière puisse modifier Dieu. Mais c'est ma théologie, une fois de plus, je n'impose personne à me suivre. Hein. Mais je pense que le but de la prière, c'est de modifier celui qui prie et pas de modifier Dieu. Parce que j'ai moi-même, en tout cas, une foi dans un Dieu transcendant, Et immuable et éternel, donc Dieu, il sait ce qu'il a à faire. C'est d'ailleurs ce que dit Jésus, d'ailleurs, dans Matthieu, dans sa leçon pour la prière. Il dit, faites pas comme les païens qui pensent qu'à force de réclamer à Dieu, ils vont obtenir. Dieu sait très bien de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Donc c'est pas à moi d'expliquer à Dieu qu'il faudrait empêcher la guerre en Orient ou en Ukraine. Dieu le sait très bien, il fait déjà tout ce qu'il peut. C'est pas moi qui vais expliquer à Dieu ce qu'il a à faire. Donc je ne pense pas que la prière modifie Dieu. Je crois que la prière, c'est plus se mettre à l'écoute de Dieu plutôt que d'essayer d'aller lui expliquer son boulot.
Alors, merci. On va faire une pause musicale et puis on va revenir sur la prière, mais d'une autre façon.
Alors, cette pause musicale que je vous propose, c'est une pièce que j'ai enregistrée moi-même. C'est une pièce que je joue au luth de Sylvius Leopold Weiss, qui était un exact contemporain de Jean-Sébastien Bach.
Eh bien, nous allons écouter ce morceau et nous nous retrouvons ensuite. Alors, nous nous retrouvons pour continuer sur la prière. Finalement, dans ce que vous dites, dans les bonnes ondes, enfin, dans cette transmission autour de nous, est-ce qu'il y a un lien avec la physique quantique ou il y a un partage d'informations entre des éléments qui sont très loin? Est-ce que vous pouvez d'abord expliquer pour nos auditeurs cette idée donc de transmission d'informations à très grande distance? Et puis, nous répondre, est-ce que c'est un peu le même phénomène ou est-ce que ça n'a rien à voir?
Je me méfie un peu des récupérations. C'est-à-dire, effectivement, je disais tout à l'heure, cette histoire d'ondes, là, je s'envoie de bonnes ondes, c'est-à-dire, est-ce que je peux être lié à un être sans que nécessairement il y ait un signal physique qui passe entre moi et l'être en question? C'est vrai que c'est quelque chose que l'on connaît en mécanique quantique, ça s'appelle le paradoxe des particules corrélées. Donc, on sait que apparemment, il peut y avoir des particules qui restent corrélées entre elles sans qu'il y ait de signal physique qui transite. Donc, je veux pas, je dirais, réutiliser ça comme prétexte pour dire, ah ben, vous voyez, c'est pareil, quand on prie, on est comme les particules corrélées, parce que c'est peut-être un petit peu dangereux. Mais disons, tirons certainement de cette histoire que le monde est beaucoup plus compliqué qu'on imagine. Et que le danger d'un petit peu de science, je dirais, ce serait de prétendre être capable de dire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. En fait, on voit, et surtout avec la mécanique quantique, que le monde est extrêmement complexe et qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas et que par conséquent, les choses sont peut-être parfois plus compliquées qu'on ne veut dire. Donc, je garderai ça essentiellement que, effectivement, le bon sens commun ne permet pas de savoir exactement ce qui est possible et ce qui n'est pas possible et que les choses sont parfois plus compliquées que ça. Donc, c'est plutôt une porte ouverte que je voudrais mettre plutôt que d'essayer de faire du concordisme en essayant d'utiliser la science pour démontrer Dieu, ce que je crois une fausse piste, franchement. Alors, il y a des gens qui font ça, et en particulier sur le Big Bang. Alors, on dit, ah, ça y est, il y a un Big Bang, donc il y a un commencement, donc forcément Dieu existe. Bon, je crois que ça, c'est vraiment des réflexions qui sont extrêmement dangereuses parce qu'on fait là exactement comme la théologie a toujours voulu faire, c'est-à-dire d'essayer de glisser la théologie là où la science ne sait pas répondre. Mais demain, on va nous expliquer que le Big Bang n'est pas un problème et qu'en fait, avant le commencement, il y avait un autre univers. Et du coup, tous les efforts de ces bons théologiens d'essayer d'expliquer que Dieu est l'origine du Big Bang vont s'effondrer.
Vous rejoignez absolument ce que a dit André Neveu ici à notre antenne en disant que récupérer des théories scientifiques qui pourraient coller de nos jours avec la religion est effectivement dangereux parce que si ça s'avère faux, eh bien tout s'effondre. Alors on va justement ne pas le faire et donc on va rester plus au niveau théologique. Alors, on arrive à la place de l'homme. Vous dites que l'homme peut très bien être au centre de l'univers du point de vue théologique sans qu'il en soit ainsi du point de vue géographique ou cosmologique. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer cette phrase qui me semble très importante?
Alors, c'est-à-dire que tout ce que je peux dire, c'est que l'homme est au centre de mon univers, c'est-à-dire que moi, en tant qu'homme, je vois le monde à partir de l'homme, si je peux dire. Donc, de mon côté, l'homme, effectivement, ce qui est aujourd'hui le central, non seulement pour mon expérience, mais je dirais même pour ce qui est de la création terrestre. Franchement, je crois que l'homme a une complexité au niveau de l'intelligence, de la sensibilité, qui n'est atteinte par aucun autre élément de notre création, de notre univers connu. Donc, je pense que même si tous les animaux sont tout à fait respectables et très intéressants, parfois très complexes, l'apparition chez l'homme de la conscience réfléchie, de la foi, de la capacité même à connaître justement l'immatériel, l'absolu et de connaître le divin est quelque chose d'absolument unique. Donc, de ce côté-là, je dirais que je pense qu'il y a effectivement une sorte de progression de complexité depuis le domaine du minéral, le domaine du végétal, le domaine animal et finalement le domaine de l'esprit, en fait, qui est le domaine de l'homme. Donc, de ce côté-là, oui, je pense que l'homme est effectivement quelque chose, un élément dans l'univers d'une complexité absolue. Maintenant, est-ce que il y a ailleurs dans l'univers une autre forme d'intelligence, une autre forme de foi, une autre forme de sensibilité? J'en sais rien. Et peut-être que oui, d'ailleurs. Donc, je ne veux pas dire que l'homme tel qu'on le connaît aujourd'hui doit nécessairement être le point d'arrivée de la création et que tout aurait été fait simplement pour arriver à ce qu'est l'homme aujourd'hui. Sans compter que l'homme, il est là aujourd'hui, mais dans un milliard d'années, il ressemblera à quoi? Il va continuer d'évoluer. Je ne sais pas pourquoi ça s'arrêterait ici. La création n'a aucune raison de s'arrêter. Donc, il y a quelque chose encore derrière, probablement. Donc, on est une étape dans un processus évolutif. Et aujourd'hui, c'est une forme de sommet, je le crois. Mais est-ce que c'est un sommet absolu pour l'ensemble de l'univers et pour tous les temps? Ben, ça, je ne peux pas le dire.
Et alors, donc, on a vu que la prière interagissait dans le monde, pas en modifiant Dieu, vous l'avez bien précisé, mais en modifiant nous-mêmes et en modifiant peut-être notre entourage. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens par lesquels Dieu agit dans le monde?
Alors, évidemment, de différentes manières, c'est-à-dire, puisqu'on parle au niveau de notre expérience à nous-mêmes, je pense que je crois que Dieu est un principe créateur, c'est-à-dire je pense qu'il y a effectivement que le monde est effectivement sous-tendu par une sorte de dynamisme créateur, de je ne sais pas comment on appelle ça, comme disait les théologiens du process, ou c'est une expression aussi qu'exprime un certain nombre de philosophes. Donc je pense que les lois physiques ne rendent pas compte de l'ensemble de l'évolution du monde, parce que les lois physiques ne sont que des lois neutres, je dirais, ou passives, c'est-à-dire qui n'expliquent qu'une chose, c'est comment les choses se dégradent, en fait, mais pas tellement comment elles se créent. Et que par conséquent, il y a une dynamique de création et de complexification dans le monde. Et on peut, même les physiciens les plus athées disent, il faut admettre qu'il y a dans l'univers une tendance à la complexification. Voilà, on peut appeler Dieu la tendance à la complexification. Donc, en tout cas, je pense qu'il y a une puissance de création dans le monde, puisque le monde se crée sous nos yeux, et ça c'est indéniable, et que les lois physiques ne sont jamais des lois de création. Donc il y a quelque chose de positif qui se passe, et donc il y a un dynamisme derrière. Alors ce dynamisme agit de deux manières. Il agit d'une manière très lente, donc par conséquent dans l'univers lui-même, c'est-à-dire que l'univers est poussé par une sorte de force, de vent qui le pousse vers la complexification et vers un état qui est celui auquel nous sommes aujourd'hui. Donc il y a l'univers est poussé lui-même par un vent créateur, pourrais-je dire, ou un vent complexificateur. Mais ça prend beaucoup de temps, parce que pour créer la merveille que vous êtes, vous, il a fallu quand même 13 milliards d'années, ce qui est beaucoup, hein. Et par rapport à notre propre échelle de quelques décennies, c'est immense. Nous vivons même pas une microfeuille de papier par rapport à l'épaisseur du monde. Et ensuite, l'autre mode d'action de Dieu, c'est par rapport à l'homme, parce que l'homme, chaque humain, est un élément du monde, c'est-à-dire que l'humain n'est pas hétérogène par rapport au monde. L'humain est une parcelle de l'univers, en fait. Et tout à coup, dans l'humain, par sa sensibilité, par son intelligence, par sa capacité de liberté et de choix, l'humain est capable d'une très grande indétermination, là c'est évident. C'est-à-dire que personne ne peut savoir exactement ce que vous déciderez de faire ce soir ou de manger demain. Et donc ça, il y a quelque chose qui est absolument imprévisible. Et que dans l'homme, il y a donc une grande capacité de choix et d'indétermination, et qu'il y a là une capacité pour l'univers de faire du neuf qui est considérable. Donc si l'on pense que Dieu agit sur l'ensemble du monde, il agit en particulier sur l'humain, et que l'homme, par sa sensibilité et par son intelligence, est capable d'être particulièrement réceptif à cette puissance créatrice de Dieu. Et du coup, Dieu agit dans le monde par l'intermédiaire de l'homme qui est en fait une partie de son bras armé, et l'homme peut agir selon la volonté de Dieu, ce qui est toute la question de l'Évangile, en fait, où Jésus essaie d'expliquer ce que Dieu attend de l'homme, et que celui qui va écouter cette parole va se dire « moi, je veux bien agir dans le sens de ce que Dieu essaye de faire pour que le monde bouge un peu plus vite que d'avoir à attendre encore 15 milliards d'années en plus ».
Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'on a parlé de la théologie du process que vous venez d'évoquer. On en a parlé avec André Gounel au mois d'octobre dans « Un protestant peut en cacher un autre ». Si vous voulez vous y reporter, il suffit d'aller sur le site de la radio et de taper dans la barre de recherche « Un protestant peut en cacher un autre ». Vous aurez toutes nos émissions et celle avec André Gounel, je n'ai pas la date là, mais c'est au mois d'octobre et c'est une des premières. Alors, maintenant, on revient à notre sujet. Votre preuve, donc, si on peut parler de preuve, entre la religion et puis l'homme, entre Dieu et l'homme, vous la voyez donc dans la liberté de l'homme. Alors, vous venez de parler rapidement du fait que l'homme pouvait décider de manger ça et que personne ne pouvait le prévoir. Oui. Est-ce que on peut aller un petit peu plus loin dans cette idée que la preuve de Dieu se trouve dans la liberté de l'homme?
Non, parce que l'homme pourrait tout à fait être libre et faire n'importe quoi. La preuve de Dieu, c'est plutôt dans le fait que ce monde, bien qu'il ait une certaine marge de liberté, ne soit pas arrivé dans n'importe quoi. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'effectivement, les lois physiques ne gèrent pas tout. C'est-à-dire qu'il y a, une forme d'indétermination et que le monde aurait pu évoluer autrement, très doucement, mais il peut aller d'un côté ou de l'autre, il aurait pu être différemment. Ce qui est étonnant, c'est que le monde est abouti quelque part. Et ça, c'est étonnant. C'est plutôt ça, s'il fallait trouver une preuve de l'existence de Dieu. Mais j'aime pas cette idée-là, mais admettons. Et donc, ce serait plutôt que, malgré cette liberté, plutôt que ce soit plus 1 moins 1 égale 0 et qu'on soit sans arrêt à essayer de la déterminer, on soit arrivé quelque part. Ça, c'est assez étonnant. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il faille chercher des preuves de l'existence de Dieu, parce que Dieu, une fois de plus, c'est toujours dangereux d'essayer de le mettre dans le domaine de la science ou dans le domaine du physique. Dieu, c'est l'absolu, Dieu, c'est le transcendant, Dieu, ça peut être aussi des valeurs, c'est-à-dire des objectifs pour notre propre vie, donc ce que c'est le bien et le mal. Si je dis, je crois dans l'amour parce que l'amour est quelque chose qui n'existe pas du point de vue de la science, mais néanmoins, l'amour est, je crois, quelque chose qui est une gloire et un honneur de la création, le fait qu'il y ait de l'amour possible, et bien je crois dans l'amour, et que par conséquent, si l'amour existe, j'appelle Dieu est amour, et pourquoi pas. Et donc autrement dit, nous avons tous des choses dans lesquelles nous croyons, et par rapport à l'expérience humaine, évidemment qu'il y a du Dieu. Maintenant, est-ce que ce Dieu a... quel est le rapport entre ce Dieu et l'univers? Je dirais que c'est presque secondaire, pas très grave. Mais voilà, de toute façon, je pense que l'action de Dieu dans le monde, elle a été faite et je crois qu'à notre échelle, elle est très faible. C'est-à-dire, je ne crois pas que Dieu soit capable de transformer les objets matériels autour de nous d'une façon visible à notre échelle. Donc l'action de Dieu aujourd'hui, elle m'intéresse en tant qu'elle me transforme moi, c'est-à-dire c'est l'expérience que j'en fais. Et que ce Dieu aujourd'hui est actif parce que moi, il me transforme et que moi, il me fait vivre et que par conséquent, il y a là une puissance qui est réelle et que j'expérimente. Maintenant, est-ce que Dieu a créé le Big Bang ou pas? En fait, je pense que ça n'a à peu près aucun intérêt et aucune importance.
Et alors, la liberté, vous la voyez comme la faille fondamentale de la toute-puissance de tout discours scientifique. Mais est-ce que c'est aussi une faille de la toute-puissance de Dieu? Vous venez de critiquer la notion de toute-puissance de Dieu. Et est-ce que la liberté est un des éléments qui font que l'histoire de la toute-puissance de Dieu, le dogme de la toute-puissance de Dieu ne tient pas?
Je dirais plutôt que la liberté est l'espace où Dieu peut agir. C'est-à-dire qu'il y a de la liberté dans les lois physiques, il y a de la liberté dans le monde, il y a de la liberté dans l'homme. L'homme a beaucoup plus de liberté qu'un objet. Une pierre, elle est ce qu'elle est, elle n'a pas la liberté d'être autre chose. Donc l'action de Dieu sur cette pierre, ça va être très compliqué, ça va prendre beaucoup de temps. Tout le monde ne peut pas absolument prédire comment un objet vieillit. Par exemple, vous laissez... plusieurs morceaux de fromage dans votre frigidaire, il y en a un qui va moisir d'une façon, l'autre de l'autre, et on ne peut pas prédire à l'avance. Donc, il y a quand même des marges d'indétermination sur même un objet semblable. Mais néanmoins, ça prend beaucoup de temps. Et là, ce sont des objets avec une part de vivant en plus. C'est pour ça que ça peut aller relativement vite. Mais les objets matériels bougent très lentement. Par conséquent, la liberté est le seul lieu d'action de Dieu. Voilà. Et que, c'est le seul endroit où Dieu peut agir, puisque une fois de plus, je ne pense pas que Dieu puisse contredire les lois de la nature. Et pourquoi? Alors, le théologien Paul Tillich disait que si Dieu, comme c'est Dieu qu'on imagine être à l'origine des lois naturelles, si Dieu contredisait les lois naturelles, il se contredirait lui-même, il ferait une œuvre démoniaque. Petit sophisme philosophique intéressant. Mais néanmoins, je pense que Dieu respecte la nature et que le monde a son propre cours et qu'il y a des libertés, mais que néanmoins, ce qui m'intéresse, c'est effectivement dans ces libertés que Dieu agit.
Bien, je vous remercie. On arrive au bout de l'émission. On pourrait parler encore un certain temps parce que on a appris beaucoup de choses. Enfin, appris, c'est pas vraiment le terme. Disons que ça permet d'élargir notre réflexion. Alors, je vous remercie, Louis Pernaud. Je remercie nos auditeurs et je leur rappelle donc qu'ils peuvent envoyer leur réaction à un protestant peut en cacher un autre @radiofmplus.org. Et je vous dis à la semaine prochaine.
Parfait, merci beaucoup. Au revoir.
Thème et anathème, une émission proposée par Yolande Gounelle.